Salut tout le monde, c'est Gwen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien comme d'habitude et que vos investissements aussi. Aujourd'hui, nous allons parler des différents types de risques qui existent en bourse. Nous allons voir 4 types de risques aujourd'hui. Sachez qu'il existe d'autres types de risques en bourse, mais là, on va voir les principaux. Donc, qui seront dans l'ordre les risques macroéconomiques, ensuite les risques comptables, le risque de change et enfin le risque de liquidité. Je vous parlerai également en fin de vidéo de 2 autres stratégies que vous pouvez appliquer pour limiter le risque en bourse. Juste avant de commencer avec les risques, je vous mets en garde sur l'investissement en bourse, car même si la bourse peut apporter un super rendement, ça reste quand même risqué. Comme nous allons le voir, il y a moyen de limiter les risques et de les baisser au maximum, mais quand vous investissez en bourse, votre capital n'est pas garanti et vous pouvez perdre de l'argent sur le court terme. Soyez prudent et n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et tout l'argent dont vous avez besoin à court terme, moyen terme, n'hésitez pas à le garder en épargne de précaution pour faire face aux imprévus du quotidien sans souci. Alors tout d'abord, dans les risques macroéconomiques, on va dire qu'il y a un sous-risque. Je vais classer comme ça dans la vidéo, donc avec les risques majeurs, et ensuite on décomposera en plusieurs sous-parties. Donc le premier, c'est les crises économiques dans un secteur d'activité. En fait, c'est un petit peu ce qui s'est passé lors des derniers krachs boursiers, notamment en 2000 et en 2008. En 2000, c'était les entreprises technologiques qui ont fait une crise financière. Mais en fait, de base, c'était que du coup sur les entreprises technologiques et les entreprises internet, les dot-com. Sauf que du coup, il y a eu un effet domino et ça a entraîné un krach boursier sur tous les autres secteurs d'activité. Et en 2008, c'était pareil, c'était d'abord avec le secteur immobilier. Mais en fait, du coup, ça a été se répercuter sur la bourse, et en plus c'était l'immobilier américain, et comme l'Amérique ce sont qui ont le plus de poids en bourse, mais en fait ça a entraîné le monde entier dans leur crise. Donc du coup, faut faire assez attention à l'effet domino, et parfois un secteur d'activité peut entraîner une crise dans plusieurs secteurs, voire tous les secteurs d'activité. Ensuite, vous avez les crises économiques dans un secteur géographique. Donc ça va être par exemple plus avec tout ce qui est géopolitique, guerre, événements dans une zone précise. Donc là, dans l'article de Vogue, j'avais pris l'exemple avec Donald Trump et Xi Jinping, quand il y avait eu des différends, on va dire, entre les États-Unis et la Chine sur les accords commerciaux, tout ça. Et du coup, ça pouvait pas mal paralyser l'économie américaine et chinoise. Il y avait aussi plein d'initiatives, tout ça, d'investissements de la part des Américains envers la Chine, bah du coup, tous ces investissements ont été bloqués ou perdus. Donc, il peut y avoir aussi ces risques-là. Donc, enfin, vous avez donc tout ce qui est crise politique, on va dire. Donc, bah pareil, ça peut être un peu comme là. Donc, souvent, c'est lié au secteur géographique, mais ça peut être aussi politique d'investissement ou politique intérieure, on va dire, un peu l'éthique de chacun ou d'un peuple entier. Là, on pourrait prendre comme exemple les valeurs un peu tendance en bourse. Par exemple, il y a les valeurs écologiques, tout ce qui est éco-responsable. Donc, toutes les entreprises qui ne respectent pas les critères écologiques se font un petit peu balayer par les investisseurs et sont mises de côté. Mais parfois, il peut y avoir donc des entreprises un peu tendance, un secteur tendance, et du jour au lendemain, hop, ça s'effondre, bah, un petit peu comme il y a eu en 2000 avec les entreprises Internet, encore une fois, où du coup, c'était un peu le secteur à la mode, et donc, comme tout le monde avait investi là-dedans, bah ça a perdu beaucoup de valeur du jour au lendemain. Donc, il faut faire aussi attention aux tendances. Là, par exemple, là pour l'écologie, c'est un peu une tendance quand même assez long terme, mais ça risque pas de s'arrêter demain. Mais il peut y avoir des tendances beaucoup plus courtes et qui peuvent vous faire gagner beaucoup d'un coup, monter super vite et redescendre aussi vite. Ensuite, le deuxième gros type de risque, ça va être les risques comptables. Donc pareil qu'on va décomposer en plusieurs sous-risques. Donc tout d'abord, concernant les risques comptables, je vous conseille d'aller regarder les bilans comptables des sociétés et de regarder 3 critères importants qui sont donc le taux d'endettement de l'entreprise. Dans l'idéal, il doit être inférieur à 110%, et du coup, faites attention au taux d'endettement assez élevé ou bien qui monte à 150-200%. S'il n'y a pas de raison valable et c'est juste que l'entreprise est en difficulté financière, ça sent pas ultra bon et l'entreprise risque de faire faillite. Enfin, en tout cas, elle a plus de risques de faire faillite qu'une entreprise qui se porte bien au niveau du taux d'endettement. Ensuite, vous avez également donc le résultat net de la société, donc tous ses bénéfices. N'hésitez pas à les surveiller de très près parce que les bénéfices sont toujours liés au cours de l'action. Et les surveiller encore de plus près si les résultats nets font ça, donc en dents de scie, ils n'arrêtent pas de bouger tout le temps. Et vous devez encore plus vous méfier des résultats nets négatifs, car là, ça veut dire que l'entreprise, bah, du coup, elle a perte et qu'elle dépense plus que ce qu'elle ne gagne. Donc, soyez aussi vigilants là-dessus. Et enfin, donc, le troisième critère, ça va être les capitaux propres. Pour que l'entreprise puisse faire face à d'éventuels imprévus, il est toujours mieux qu'elle ait une certaine proportion de capitaux propres et qu'elle ne soit pas trop dépendante de ses créanciers, de ses actionnaires. Ensuite, en deuxième sous-risque, il y a également la volatilité des actions. Donc, comme les actions sont soumises à l'offre et à la demande, elles fluctuent tout le temps. C'est pour ça que les cours d'action montent ou descendent en fonction de l'envie d'achat des investisseurs. Si tout le monde délaisse une action, le cours d'entreprise va baisser drastiquement et s'il touche zéro, bah, l'entreprise fait faillite et plus personne veut d'entreprise. En fait, votre investissement est réduit à zéro. À l'inverse, du coup, si tout le monde veut une entreprise, ça va faire que monter et encore mieux si ça monte de manière exponentielle. Donc du coup, dans la volatilité des actions, on peut aussi regrouper le risque de faire faillite des entreprises, même si du coup, plus une entreprise est grosse, plus sa capitalisation boursière est élevée et donc plus elle a de visibilité, plus elle a d'actionnaires et de personnes qui peuvent l'aider en cas de souci. Et même l'État, s'il y a beaucoup d'emplois qui sont en jeu. Mais c'est pas pour autant que l'entreprise a aucune chance de faire faillite. Chaque entreprise a toujours une chance minime de faire faillite. Ensuite, le troisième risque, c'est le risque de change. Donc là, c'est plus si vous investissez à l'étranger. Donc par exemple, si vous détenez des actions en dollars américains, ou ça peut être aussi dans toute autre monnaie que l'euro, en partant du principe que vous investissez en Europe de base, ou que vous investissez depuis la France comme moi. Et du coup, en fait, par exemple, si vous achetez donc une action à 100$ et que l'action monte de 100$ à 102$, du coup, vous aurez gagné 2% sur votre investissement. Sauf que si dans le même temps, la paire dollar-euro baisse de 3%, vous aurez perdu en fait 1%. Parce que du coup, vous aurez eu plus de pourcents, mais moins 3%, donc ça fait 2 moins 3 moins 1. Donc, faut aussi prendre en compte les monnaies, leurs devises et comment elles évoluent parce que des fois, on peut croire qu'on gagne. En fait, on perd sur un investissement en fonction de la fluctuation des monnaies. Et enfin, le dernier risque, c'est le risque de liquidité. Donc là, c'est plus si vous investissez au sein d'un PEA-PME ou sur des plus petites entreprises car en fait, il y aura moins de visibilité sur ces entreprises, moins d'actionnaires aussi qui investissent dans l'entreprise. Et donc, en fait, si vous investissez et vous passez un ordre d'achat, en fait, vous pourrez avoir des fourchettes assez élevé entre chaque ordre dans le carnet d'ordre. Donc c'est-à-dire que ce sera plus difficile d'acheter un prix qui vous convient et ce sera plus difficile aussi de vendre les actions des PME par rapport aux actions des grandes entreprises françaises ou internationales. Et donc les deux derniers conseils pour terminer et réduire le risque, en fait du coup ça va être de diversifier vos actions dans votre portefeuille ou vos ETF. Je vous conseille d'avoir entre 10 et 25 actions différentes parce qu'en dessous de 10, le portefeuille sera assez volatile et au-dessus de 25, en fait, vous continuerez à diversifier, mais la volatilité va beaucoup moins baisser avec plus de 25 actions. Et en plus, du coup, le fait d'avoir autant d'actions, ça va un peu vous éparpiller si vous voulez suivre les actualités et suivre l'évolution de chacune de vos actions. Donc, je vous conseille de diversifier en gros, mais pas trop non plus. Donc, si vous avez des actions dans le secteur de la finance et de l'immobilier, s'il y a une crise dans le secteur de l'immobilier, vous allez pouvoir compenser avec les actions du secteur financier. Donc en fait, vous aurez un profil plus équilibré, quoi, tout simplement. Et donc pareil, après, vous pouvez aussi diversifier avec des ETF. Donc c'est-à-dire, par exemple, si vous avez un ETF sur le CAC 40, vous allez faire un seul achat avec un ETF et vous allez pouvoir investir directement sur les 40 actions du CAC 40. Donc un achat pour 40 entreprises et donc ça permet de diversifier massivement avec très peu de ressources et un seul investissement. Donc ça peut être pas mal aussi. Et enfin, du coup, je vous conseille de lisser vos investissements dans le temps, c'est-à-dire au lieu d'investir 1 000 euros d'un seul coup, ce sera beaucoup mieux d'investir 100 euros un petit peu chaque mois. Comme ça, vous pourrez profiter des hausses et des baisses du marché. Parce que quand ce sera en hausse, vous pourrez gagner un peu plus. Et quand ce sera en baisse, vous pourrez acheter moins cher que les autres. Et quand ça remontera quelques temps plus tard, vous pourrez profiter à ce moment-là d'avoir acheté en baisse. Parce que du coup, imaginez vous achetez 1 000 euros d'actions, mais la veille d'un krach boursier, le lendemain, vous allez perdre une grosse partie de votre investissement. Et ça peut être de moins 30% à moins 50%. Alors que si vous investissez 100 euros avant un krach boursier, vous perdez quand même 50 euros, on va dire 50%. Mais les mois suivants, comme le marché aura beaucoup plus baissé, vous pourrez investir en baisse à ces moments-là. Et du coup, vous diminuez le risque de perdre une grosse partie de votre investissement d'un seul coup. Voilà, donc j'espère que cet article de blog vous aura été utile et qui vous aura aidé à mieux comprendre les différents types de risques qui existe en bourse. N'hésitez pas à aller dans la description où vous retrouvez un e-book offert sur l'investissement en bourse si vous souhaitez approfondir ce sujet. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut !